Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre Homo, Jean-Jacques Hublin.
Bonjour à toutes et à tous. Je voulais pour ce cours vous parler du sujet de l'hybridation au moment du remplacement de Néandertal par Sapiens. Alors, c'est un sujet dont on entend souvent parler, c'est un sujet assez fascinant pour des tas de raisons. Vous allez voir que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce que vous imaginez, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de se plonger dans cette complexité, d'essayer de comprendre différents aspects de ce processus, parce que ça nous apprend à la fois des choses sur la nature mais du moins la fréquence des interactions entre Sapiens et Néandertal, mais aussi spécialement ces dernières années, ça nous a appris beaucoup sur le processus de remplacement. Et pour tout dire, c'est de la paléogénétique que vient le plus d'informations sur ce processus de remplacement. Alors, je me suis demandé comment attaquer ce sujet. Donc, je vais le faire de façon un petit peu historique, et puis peut-être en commençant par discuter de ce que c'est que l'hybridation. Et vous savez que c'est une notion qui vient un peu en conflit avec celle d'espèces. Comment est-ce qu'on définit les espèces? J'ai donné il y a quelques années un cours, pendant toute une année, sur la définition de l'espèce, sur les tribulations de l'espèce. Et dans ce cours, il y avait une séance qui était particulièrement consacrée à l'hybridation. Donc, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande de retrouver la vidéo qui est accessible en ligne. Vous verrez des histoires d'hybridation entre bisons et aurochs, entre différents cétacés, carnivores. Enfin, j'avais exhumé tout un tas de bizarreries dans la nature. Alors qu'aujourd'hui, le sujet, c'est l'homme. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment la mise en évidence de ces processus d'hybridation entre Néandertal et Sapiens, dans le fond, a énormément réactivé ce sujet de l'hybridation en général. Il faut dire que c'est arrivé aussi pour des raisons purement, j'allais dire, conjoncturelles. C'est parce qu'on a fait énormément de progrès techniques, et surtout qu'on a eu des équipements qui permettaient de faire du séquençage à haut débit, et donc de séquencer l'entièreté du génome, alors des humains, des néandertals, etc., que, assez logiquement, à peu près au même moment, on s'est mis à séquencer tout un tas de génomes d'autres créatures. D'ailleurs, on s'est rendu compte à ce moment-là que évidemment, tout le monde était très excité par cette histoire d'hybridation Néandertal-Sapiens, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'absolument trivial dans la nature, que ça se produisait absolument partout, et que ce qui s'était passé entre Néandertal et Sapiens s'était produit entre des centaines d'autres espèces de mammifères à la même époque. Donc on commence par ces notions générales sur l'hybridation, puis ensuite, on va plonger un peu plus précisément dans le cas de Néandertal et de Sapiens. Alors, depuis assez longtemps, en fait, cette question de l'isolement ou du non-isolement des groupes vivants a été au centre des réflexions en biologie d'une façon générale et au centre des débats sur la définition de l'espèce. En fait, encore une fois, si vous remontez à mes cours d'il y a 3 ou 4 ans, vous verrez que déjà au Moyen-Âge et même avant, hein, la question qui se posait, c'était est-ce que dans le fond, les catégories créées par les hommes c'était quelque chose qui existait réellement dans la nature, ou est-ce que c'était une création de l'esprit des hommes, et donc quelque chose qui était susceptible de fluctuer. Et donc, dans les différents essais de définition de l'espèce, cette notion que les espèces étaient définies dans la nature par l'interfécondité des individus, c'est une notion qui est apparue de façon assez ancienne, bien avant qu'on fasse de la génétique. Et donc, je vous rappelle la figure du biologiste anglais John Ray. Donc là, on est au XVIIe siècle. Hein. Et donc, au XVIIe siècle, John Ray, qui est un très grand naturaliste, hein, c'est un des fondateurs de la science botanique anglaise, donc quelqu'un qui a eu le mérite de classer les plantes d'après la forme et la structure de leurs fruits, d'après la constitution de leurs fleurs, leur nombre de pétales, etc., mais qui s'est aussi intéressé aux animaux, et en particulier aux oiseaux et aux poissons. Et donc, John Ray, il propose que l'espèce, c'est une unité systématique qui réunit des individus vivants, capables de se croiser entre eux et de donner naissance à une progéniture féconde. Et il va être suivi par bien d'autres jusqu'à l'époque moderne. Pour aller très vite, hein, je vous cite à nouveau Buffon. Alors, on est maintenant au XVIIIe siècle, et Buffon poursuit un petit peu dans la même veine. Hein. Il produit cette monumentale Histoire naturelle en 36 volumes, dont les premières paraissent en 1749. Et Buffon, qui est parfois vu comme un des précurseurs du transformisme, définit lui aussi l'espèce comme une succession continue d'individus qui peuvent se reproduire entre eux. Et c'est dans le fond, cette notion d'unité de reproduction, c'est quelque chose qui va être au centre de la réflexion des biologistes après l'avènement de la génétique. Et je vous rappelle que au milieu du XXe siècle, on voit émerger une théorie synthétique de l'évolution qui mêle à la fois des concepts traditionnels et puis toutes les avancées qui ont lieu et qui vont avoir lieu avec le développement des études sur l'ADN et de la génétique plus tard. Et donc, ce groupe de biologistes bien connus, au milieu du XXe siècle, propose cette fameuse théorie synthétique et un concept de l'espèce qu'on a appelé le concept biologique de l'espèce. C'est un terme un petit peu malheureux parce que je vais vous montrer dans une minute d'autres définitions de l'espèce qui sont tout autant biologiques, hein, mais qui correspondent à des concepts un petit peu différents. Et donc, dans cette définition de l'espèce proposée par Mayer en 1942, eh bien, voilà, il est dit que les espèces représentent des groupes qui sont dans la réalité ou potentiellement, ça c'est un sujet, capables de former des populations interfertiles. Et qui sont isolés sur le plan reproductif des autres groupes. Alors évidemment, cette définition, elle va immédiatement poser des problèmes. Elle ne s'applique pas aux espèces paléontologiques, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas tester l'interfécondité d'êtres qui sont éteints. Et surtout, on ne peut pas tester l'interfécondité d'individus qui ont vécu à des époques différentes. Et puis, elle ne s'applique pas à tout un tas de situations, en particulier à des êtres qui n'ont pas de reproduction sexuée, ce qui représente la majorité de la vie sur Terre. Mais c'est un concept de l'espèce qui va prendre une place vraiment prépondérante. Je suppose que dans vos classe de sciences naturelles, quand vous étiez au collège, au lycée, vous avez aussi appris, comme moi, que les espèces étaient constituées par l'ensemble des individus qui pouvaient se reproduire entre eux, avoir des produits féconds et qui étaient isolés sur le plan reproductif des autres créatures. Comme je vous l'ai dit, en réalité, il y a de très nombreuses définitions de l'espèce qui ont été proposées avant Meyer et après Meyer. Et là, je vous ai listé les principales. Vous voyez, il y en a 26, enfin, celles que j'ai listées ici. On ne va pas dépouiller toute cette liste, mais il faut bien se rendre compte que, dans le fond, en fonction de l'approche de chaque spécialité de la biologie, on va avoir des visions de l'espèce un peu différentes. Donc les écologues, par exemple, vont avoir une vision de l'espèce un peu différente des généticiens ou des paléontologues. Parfois, on met en avant plutôt des caractères morphologiques pour définir les espèces, des aspects comportementaux, des aspects écologiques. Et c'est comme ça qu'on arrive à toute cette variété de notions, de définitions qui entourent l'espèce et qui ont été souvent, à tort, présentées comme des définitions contradictoires. Alors, une des raisons pour lesquelles on a toutes ces définitions, c'est que la définition de l'espèce fondée sur un isolement reproductif, évidemment, elle se heurte, j'allais dire, de façon frontale à l'existence d'hybrides. Et des hybrides, on sait depuis longtemps que dans la nature, il y a des hybrides entre des créatures, j'allais dire, qu'on considère manifestement comme des espèces différentes. Déjà au XIXe siècle et même avant, on s'était bien rendu compte dans les eaux que si on mettait ensemble des ours polaires et des ours bruns, ils finissaient par produire des hybrides. Que ces hybrides, parfois, étaient stériles, mais pas toujours. Parfois, ils étaient féconds. Et que, parfois même, ces hybrides n'étaient pas seulement le produit du croisement d'espèces différentes, mais parfois de genres de mammifères différents. Alors les genres, c'est la catégorie au-dessus, si je peux dire. Et donc, on a des exemples. Je me souviens vous avoir parlé, à vous ou à vos prédécesseurs, d'hybrides, par exemple de béluga et de narval. Ce sont des cétacés qui appartiennent à des genres différents. Et on a des hybrides de ces animaux. Or, pour aujourd'hui, j'ai juste retenu un exemple, parce que c'est un exemple parmi les primates, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous, mais on a, entre les babouins et puis un genre qu'on appelle Theropithecus, on a dans la nature, là on ne parle pas de zoo, hein, on a dans la nature des exemples d'hybridation entre Papio amadrias, donc qui est un babouin, et puis ce fameux Theropithèque que vous avez photographié là-haut. Vous voyez, ce sont des créatures assez différentes. Sur le plan évolutif, on sait qu'elles sont séparées depuis plusieurs millions d'années, mais elles continuent dans la nature occasionnellement à produire des hybrides, et ces hybrides sont féconds. Alors en fait, tout ça produit, nombre de réflexions sur la façon dont il fallait regarder ces différents concepts de l'espèce et la façon de définir les espèces. Et on a un certain nombre d'auteurs, en particulier un que je vous recommande qui s'appelle De Queyros, qui a publié un certain nombre de revues, enfin d'articles de synthèse, où dans le fond, il analyse ces différentes définitions, ces différents concepts de l'espèce, et il montre de façon assez convaincante que, en fait, ces différentes définitions, elles ne sont pas du tout contradictoires, mais elles correspondent en réalité à des stades successifs dans la séparation de deux espèces. Et donc, la notion d'isolement reproductif, c'est une notion qui est un petit peu conjoncturelle, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est un critère qui se met en place. Alors d'abord, qui se met en place non pas de façon instantanée. On se réveille pas un matin en étant plus interfécond avec les voisins. Donc c'est quelque chose qui prend chez les mammifères généralement plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Donc c'est un processus assez long. Et dans le fond, au cours de ce processus, il y a bien d'autres critères qui apparaissent. Alors, des critères qui sont des critères d'abord d'isolement géographique ou écologique, l'apparition de mutations, donc d'allèles différents dans deux lignées sœurs, comme c'est représenté ici, évidemment des habitats différents avec des adaptations différentes, des caractères morphologiques qui se mettent en place, et dans le fond, il faut attendre la fin de ce processus pour avoir un isolement reproductif absolument étanche. Et donc on a une longue période pendant laquelle on continue à avoir de l'hybridation, enfin de l'interfécondité. On a au début des produits qui sont des produits féconds, et puis au cours du temps, cette interfécondité, elle va fonctionner de moins en moins bien. C'est-à-dire que la fécondité en fait, des hybrides va s'abaisser progressivement jusqu'à ce qu'ils deviennent stériles. Et d'ailleurs, dans la nature, généralement, on a un des sexes qui devient un des sexes d'hybrides qui devient stérile avant l'autre. C'est lié à ce qu'on appelle l'hétérogamie, c'est-à-dire le fait que en tout cas chez les mammifères, les mâles ont deux chromosomes sexuels différents, alors que les femelles ont deux chromosomes X. Chez les oiseaux, c'est le contraire. Donc, en général, c'est le sexe hétérogamique qui devient stérile le premier, ce qu'on appelle la loi d'Haldane. Et donc, de Kairos et d'autres ont fait valoir que les différentes définitions, les différents concepts d'espèces, concept génomique, concept morphologique, concept écologique, etc., eh bien, en fait, ça représentait des gradations dans ce processus et on pouvait, dans le fond, les empiler les uns sur les autres plutôt que de les mettre en contradiction. Et tout ça, ça amène ces gens-là à définir l'espèce non plus comme des entités qui sont isolées sur le plan reproductif, mais plutôt comme des métapopulations qui sont en voie de séparation et qui aboutissent finalement à un isolement reproductif total, mais qu'on doit reconnaître comme des espèces. Pourquoi ? Eh bien parce que, on va en parler tout à l'heure à propos d'un exemple chez les primates, parce qu'en fait, au cours de ce processus, à partir d'un certain stade, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que dans ce processus-là, il y a un moment où, bien que ces deux métapopulations sœurs soient toujours potentiellement interfécondes et produisent des hybrides féconds, eh bien, elles ne peuvent plus fusionner, si je peux dire, pour revenir au stade de l'espèce mère qui leur a donné naissance. Et donc, à partir du moment où elles sont engagées dans cette voie sans retour en arrière possible, eh bien, on va les reconnaître comme des espèces. Alors là, évidemment, c'est un petit peu embêtant parce que ça complique les choses. On avait un critère simple, et ce critère, maintenant, il faut l'abandonner. D'ailleurs, soit dit en passant, pratiquement tous les hominines dont on parle au cours de mes enseignements depuis maintenant plus d'une dizaine d'années au Collège de France, eh bien, sont dans cette zone verdâtre dont on parle. C'est-à-dire qu'en gros, on parle d'espèces qui sont des espèces en formation. Donc j'espère avoir éclairci ce point-là. Et je voudrais maintenant parler plus spécifiquement de cette hybridation entre notre espèce et Néandertal. Et donc, si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai expliqué auparavant, je parle de Néandertal comme d'une autre espèce, même si c'est une espèce en voie de formation. Alors, l'histoire de la hybridation de Sapiens et de Néandertal, en fait, c'est une vieille histoire. C'est quelque chose qui intéresse les paléoanthropologues depuis très longtemps. Ça a commencé dans la première moitié du XXe siècle. Dès qu'on a eu des hommes de Néandertal qu'on a estimés plus ou moins contemporains de Sapiens, on s'est posé la question de cette hybridation. Certains ont voulu croire qu'elle était fréquente, naturelle, d'autres pas du tout. Ça relevait plus d'une espèce de choix idéologique, politique, si je peux dire, que d'une argumentation réellement scientifique. Puis en arrière-fond de ça, évidemment, il y avait aussi la question de la continuité possible entre Néandertal et Sapiens, Néandertal étant vu comme, au moins en partie, un ancêtre des Sapiens européens actuels. Alors, cette histoire d'hybridation, je pense qu'elle a été discutée pour la première fois de façon vraiment assez sérieuse à propos de ce qu'on a appelé les hommes de Palestine. Alors, ces hommes de Palestine, c'est quoi ? Eh bien, c'est ces fossiles, je vous ai souvent montré, qui ont été découverts dans les grottes qui se trouvent aujourd'hui en Israël, hein, de Skoul, de Tabun, de Kafzé. Voilà un des crânes de Skoul, le mieux conservé, Skoul 5. Et donc, ces fossiles, je vous rappelle qu'ils ont commencé à être découverts avant la Seconde Guerre mondiale, avec les travaux d'archéologues comme Misgarod à Tabun, et puis de McCown à Mugaret School. Et donc, dans l'étude de ces fossiles par Kiss et McCown, il y a eu déjà tout un tas de, j'allais dire, d'allers-retours où ces paléontologues se sont demandé, en étudiant ces fossiles, est-ce que ce sont deux formes différentes ? Est-ce qu'on a des Néandertals et puis autre chose qui ressemble plus à des hommes actuels ? Est-ce qu'on a une espèce de clean entre les deux formes ? Et on voit dans les publications et dans les écrits de ces chercheurs que, dans le fond, ils hésitent, ils ne savent pas trop, ils commencent par dire ces deux choses différentes, après ils ont tendance à les regrouper. Et donc, vous voyez, ça remonte à assez loin. Et cette notion qu'on a dans cette région du monde, donc à la sortie de l'Afrique, où a évolué notre espèce. À l'époque, on ne parle pas de ça encore. Hein. On n'est pas dans le modèle d'origine africaine de l'homme actuel. Mais voilà, on s'interroge. Alors, on parle de néandertaliens progressistes. C'est une notion qui a été très présente. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre la photo de cet anthropologue hongrois qui s'appelait Andor Thomas. Alors, j'ai une affection particulière pour Andor Thomas parce qu'il était dans mon jury de thèse quand j'étais étudiant, donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Et Andor Thomas, bon, c'était un Hongrois qui avait fui la Hongrie du temps de l'Union soviétique. Hein, donc, il avait trouvé refuge en France. C'est comme ça qu'il a atterri dans mon jury de thèse. Et donc, il avait travaillé sur des fossiles, et travaillé en particulier sur les fossiles de Vertes Zeleus. C'est un hominine européen découvert en Hongrie, dans un site qui est assez célèbre, du Pléistocène moyen. Et alors, Thomas, quand il était en France, il a produit un certain nombre d'articles qui étaient un peu des articles de synthèse, puisqu'il ne pouvait plus travailler sur ces fossiles hongrois. Et il a publié plusieurs articles sur le multirégionalisme. Vous savez, le multirégionalisme, c'est l'origine locale des Homo sapiens. Il était, enfin, tout le monde était plus ou moins multirégional à l'époque. Je l'étais presque, en fait. C'était quelque chose qui était vraiment dans l'air. Bon. Mais il a aussi publié un article sur ces fameux hommes de Palestine, où il a vraiment développé cette notion que, en fait, on avait affaire à des métis, qu'on avait les deux extrêmes de la variation. Mais en réalité, reconnaître dans le registre fossile des métis, surtout des métis entre des formes très proches, enfin des espèces très proches, je vous ai parlé d'espèces en formation, bah, c'est très difficile. Et d'ailleurs, je dirais, ça ne marche pas très bien. Et donc, on a quand même assez peu de critères pour identifier de façon certaine des métis, mais il n'empêche que on a probablement des métis dans le registre paléontologique, paléoanthropologique, et je dois dire que ces fossiles du Proche-Orient, qui sont à la porte de l'Afrique, donc je vous ai expliqué qu'il y a eu des sorties de sapiens anciens d'Afrique, et on va y revenir à plusieurs reprises, qu'on a au Proche-Orient des formes qui ressemblent plutôt aux Néandertaliens et d'autres qui ressemblent plutôt aux sapiens. Et donc, l'idée qu'on a dans cette zone, dans cette région, une zone d'hybridation, c'est quelque chose qui paraît assez sensé, même si c'est difficile à prouver de façon absolument imparable. Et on a, je vous le rappelle, des arguments qui viennent en fait plutôt de l'archéologie. On a essayé de différencier des industries lithiques qui auraient été fabriquées alors plutôt pendant le dernier interglaciaire par des sapiens anciens à Kavzé, à Skoul. Donc c'est ce fameux moustérien interglaciaire du Levant. Et puis on a essayé de l'opposer à un moustérien du Levant un peu plus tardif qui lui aurait été fabriqué par des Néandertals. Alors le problème avec ça, c'est que la différence entre moustérien interglaciaire et moustérien plus récent, plus tardif, c'est quand même assez léger comme différence. Ça se ressemble terriblement. En gros, la différence entre les deux, c'est que voilà, tous les deux produisent des pointes levallois. Les pointes levallois produites par, enfin censées avoir été produites par des sapiens, elles sont un peu plus courtes, un peu plus larges, et celles produites par les néandertals un peu plus longues, un peu plus pointues, ça paraît quand même un peu, critiquable comme distinction. D'autant plus que ce moustérien du Levant, avec son débitage levallois et un certain nombre de traits technologiques bien particuliers, il est très différent d'autres moustériens qu'on connaît ailleurs, dans le Zagros, en Afrique du Nord, on a du Middle Stone Age aussi qui ressemble un peu à un moustérien, puis on a des moustériens en Europe. Et en fait, alors qu'ils soient censés être associés à des Néandertals ou à des sapiens, celui du Levant, c'est un peu toujours la même chose. Et donc, on a plutôt l'image d'une entité qui aurait été partagée, alors peut-être avec des toutes petites variations technotypologiques, mais une entité produite par tous ces hommes, sapiens, néandertal, ou quelque part entre les deux. Et je dois dire que récemment, cette notion, elle a été plus ou moins confirmée par le fait qu'on a découvert, alors justement dans ce fameux interglaciaire où on est censé trouver des sapiens avec le moustérien du Levant interglaciaire, on a trouvé une mandibule qui, quand même, par beaucoup de caractères, ressemble furieusement à une mandibule de Néandertal. Donc, voilà, il y a une suspicion, je pense, qui est assez forte, et il y a des gens qui argumentent là-dessus, qu'on a probablement au Proche-Orient une zone d'hybridation, comme on en a, je vais vous en montrer, entre des espèces proches de primates. Alors, en Europe, ailleurs, on a évidemment cherché des hybrides, et je dois dire qu'il y a certains chercheurs qui ont été assez enthousiaste dans la recherche, la description d'hybrides de Néandertal et de Sapiens. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a là-dedans quelque chose qui n'est pas uniquement rationnel et scientifique. Hein. Il y a quelque chose d'un peu militant. C'est-à-dire, on avait envie que tout ce monde-là se mélange et donne l'origine des Européens actuels. Alors, je ne vais pas avoir la cruauté de vous montrer tous les hybrides plus ou moins foireux qu'on a imaginés, mais je vous en montre quand même un. Il y a un enfant qui a été découvert au Portugal dans un site qui s'appelle Lagarvelo. Et cet enfant, il a été, avec beaucoup de patience et d'obstination, décrit par ses auteurs, Zilao et Trinkaus, en 2002. Donc, je ne vous parle pas du temps où les bêtes parlaient. Hein. Il a été décrit comme un hybride de Néandertal et de Sapiens. Alors, depuis, je pense qu'on a un peu glissé sous le tapis la poussière de Lagarvelo, mais... c'est quelque chose qui a été très discuté, qui a été central, d'ailleurs qui m'a valu de me fâcher avec Trinkaus, qui, quand il a réalisé que je n'avalais pas, si je peux dire, Lagarvelo, a décidé de ne plus me parler. Le problème de Lagarvelo, c'est quoi? C'est que sur le plan anatomique, les caractères néandertal, entre guillemets, sont quand même assez... discret, on va dire, et puis surtout, c'est un squelette qui date du Gravettien, donc c'est un squelette qui a 25 000 ans. Et donc, si on veut en faire un hybride, ça veut dire qu'il y a des Néandertals qui vivent quelque part dans un coin du Portugal, il y a 25 000 ans, ce qui est extrêmement improbable. Hein, extrêmement improbable, parce que tout ce qu'on sait de l'archéologie de ces régions-là montre que probablement les derniers néandertaliens dans la péninsule ibérique doivent disparaître peu de temps après 40 000. Donc là, on est très très loin après cette limite. Alors, on a continué à trouver des hybrides, à décrire des hybrides. D'ailleurs, dans le début du Poétique supérieur, je pense en particulier à une mandibule qui avait été décrite en Allemagne, qui s'appelle la mandibule de Stetten. On s'est rendu compte, quand on a fait des datations directes de ces fossiles, que certains étaient néolithiques. Donc, encore une fois, c'est très difficile d'imaginer qu'au néolithique, on ait eu des hybrides de Néandertal et de Sapiens. Hein. Bon. En fait, c'est vraiment de la paléogénétique qui est venue l'avancée décisive sur cette question de l'hybridation. En fait, c'est quand on a réussi à séquencer des génomes de fossiles, que ce soit des sapiens anciens ou des néandertals, qu'on a vraiment avancé sur cette question de l'hybridation. Je souligne quand même que ça, c'est le premier papier qui a été publié en 1997 par une équipe qui était dirigée par Svante Paabo et qui était basé à l'époque encore à Munich. Et cette équipe, donc avec comme premier auteur un chercheur qui s'appelait Krinks, il s'appelle toujours Krinks d'ailleurs, a publié le premier séquençage de petits bouts d'ADN néandertalien qui avait été extrait d'ossements de la grotte Feldhofer près de Düsseldorf. Ils n'ont pas coupé un bout de la calotte crânienne qui est sur la couverture du numéro de Cell où leur article a été publié. Hein, ils ont coupé autre chose, un bout d'os long. Mais cette publication a vraiment été le point de départ de la paléogénétique des Néandertaliens. Et cette première publication, donc c'était un petit nombre de paires de bases quand même, c'était le séquençage de l'ADN mitochondrial de ce spécimen. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer une nouvelle fois la différence entre l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire, mais l'ADN mitochondrial, il est transmis que par des lignées maternelles, il ne se recombine pas, il n'y a pas toute la... le rebattage de cartes qui se produit dans l'ADN nucléaire. Et j'ai retiré, enfin je suis allé regarder encore une fois les conclusions de cet article de 97, et vous voyez que d'ailleurs, je crois que c'était le titre de l'article. Hein. C'était, enfin, en gros, l'article expliquait que, à cause de ce séquençage, on pouvait affirmer, premièrement, que les Néandertals n'étaient pas les ancêtres des sapiens. Bon, ça paraissait assez évident à un certain nombre de paléontologues, mais dit par des généticiens, ça paraissait plus convaincant. Donc, ça, c'était une conclusion essentielle de l'article. Mais il y a aussi une autre conclusion dans l'article, qui est de dire que, en fait, le séquençage produit soutient la notion, enfin le scénario d'une origine des Homo sapiens quelque part en Afrique, comme une espèce différente des Néandertals, et d'un remplacement des Néandertaliens. With little or no interbreeding, hein, c'est-à-dire à l'époque, donc l'équipe de Pebo, dans le fond, croit pas trop à l'hybridation. Ils disent il y a un remplacement, il y a pas de mélange, c'est une espèce qui remplace une autre. Alors après, ça a changé énormément, mais ça c'était le point de départ. Alors évidemment, quand on lit l'article en détail, et bon, cet article il a été lu et relu, ils sont quand même prudents parce qu'ils disent. On n'exclut pas que ailleurs dans le génome, on va peut-être un jour trouver la trace de cet ADN néandertalien. C'était assez prudent parce que effectivement, comme l'ADN mitochondrial ne se recombine pas, eh ben c'est pas vraiment sur cet ADN là qu'on peut aller détecter. Une hybridation avec une petite introgression d'ADN venant d'autre part. Parce que, voilà, l'ADN mitochondrial, il n'y a pas le choix. Vous avez celui de maman, vous n'avez pas celui de papa, et donc papa peut être n'importe quoi, vous n'aurez jamais un bout de son ADN mitochondrial. Alors, l'avancée vraiment déterminante, ça a été en 2010, quand est paru dans la revue Science un article qui s'appelait « A draft sequence of the Neanderthal genome ». Et là, c'est la première publication du séquençage, alors pas de la totalité, mais quand même d'une très grande partie, du génome nucléaire de Néandertaliens extrait. Alors vous voyez de fragments osseux qui ne sont pas très spectaculaires, qui viennent de la grotte de Vinja, en Croatie. Et cet article est publié par un chercheur, lui aussi de l'équipe de Pebo, qui entre-temps était venu à Leipzig et avait fondé l'Institut d'anthropologie évolutionnaire. Donc c'est Richard Green qui est le premier auteur, qui est quelqu'un avec qui que j'ai bien connu, avec qui j'ai souvent discuté de ces questions-là. Et donc, Green, son groupe et toute l'équipe autour de Pebo arrive à produire une séquence assez complète, alors qui va être, par la suite, hein, je ne vais pas vous faire tout l'historique des séquençages d'ADN néandertalien, mais depuis, on en a produit d'autres assez complètes, même plus complètes. Hein. Il y en a une qui a été publiée à partir d'un néandertal de l'Altaï, je vais vous le montrer tout à l'heure. Puis on est revenu à Vinja pour compléter ces premiers résultats. Donc on a eu quand même déjà en 2010 vraiment de quoi discuter de ces questions d'hybridation. Et de fait, c'est cette publication de 2010 qui a vraiment mis sur le devant de la scène, si je peux dire, cette histoire d'hybridation entre Néandertal et Sapiens, quelque chose qui jusqu'à présent était soit discuté sur, avec des arguments anatomiques sur des fossiles qui étaient assez difficiles à certifier comme des hybrides, soit sur de l'ADN mitochondrial qui n'était pas vraiment le meilleur moyen. Là, on va avoir de l'ADN nucléaire. Alors, qu'est-ce que montre ce séquençage de Green et compagnie? Bien, il montre qu'il y a une distance génétique entre les sapiens et les néandertaliens beaucoup plus grande que celle qui existe entre des groupes de sapiens actuels. Donc ça, ce n'est pas une grande découverte. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres. Je ne vous cache pas que j'ai eu un peu de mal à les poser, ces chiffres-là, parce que la notion de distance génétique, c'est une notion qui est un peu difficile à formuler, à quantifier de façon précise. Pourquoi ? En fait, essentiellement parce qu'il y a différentes façons de calculer le nombre de différences dans le génome entre deux groupes. Par exemple, je suis sûr que vous avez entendu parler de ça, la différence, on cite souvent l'exemple de la différence homme-chimpanzé en disant il y a 98, presque 99% d'ADN identique chez un chimpanzé et chez un homme. Et donc ça, ce genre de calcul a été très critiqué, remis en cause, etc. Parce qu'on peut prendre les 3 milliards de paires de bases, compter combien il y a de nucléotides différents. On peut ne compter que les régions qu'on peut aligner les unes à côté des autres, ce qui paraît être plus, raisonnable plutôt que de prendre l'ensemble du génome. On peut aussi regarder les régions qui sont les plus variables. Enfin bref, je ne dis pas que ces mesures sont inexactes, mais disons qu'il y a différentes façons de mesurer ces distances. Alors si on en reste aux régions alignables, disons que si on prend deux êtres humains sur Terre aujourd'hui, on va trouver à peu près une différence de 1 nucléotide sur 1000 dans leur génome qui va être différent. Je fais quand même une petite parenthèse, que j'ai déjà faite d'ailleurs. Ces histoires de différence en nombre de nucléotides, ça ne dit pas grand-chose sur les différences phénotypiques, différences morphologiques ou autres, ni quelque chose à propos de l'interfécondité ou de la non-interfécondité, de la proximité, etc. Ça dit quelque chose sur l'histoire phylogénétique, mais pas plus. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, les mutations qui apparaissent dans le génome, elles peuvent avoir pas d'importance du tout, où elles peuvent avoir une importance catastrophique. Je crois que je vous ai déjà cité le nom d'une mutation qui crée la microcéphalie chez les nouveau-nés. C'est un seul nucléotide qui a muté sur 3 milliards, mais juste cette mutation-là a des effets absolument catastrophiques sur le phénotype. Enfin bref, donc on a à peu près, quand on compare des humains actuels ou qu'on compare des humains avec des néandertals, on a à peu près 3 ou 4 fois plus de différence entre n'importe quel humain actuel et un néandertal qu'entre des humains actuels d'où qu'ils viennent. Et puis si on va chercher des chimpanzés, alors là, le nombre de différences, toujours pareil, pour des régions qu'on peut aligner, c'est 10 ou 20 fois plus de différence que ce qu'on va trouver entre des humains actuels. Alors ce qui a été vraiment central dans le travail qui a été mené à l'époque quand on a séquencé l'ADN nucléaire de Néandertal, c'est qu'on ne s'est pas contenté de comparer ce génome nucléaire de Néandertal avec un humain. On l'a comparé évidemment avec des génomes de différentes populations sur Terre. Et là, ce qui est apparu, c'est que, en fait, cette différence observée entre humains et néandertals, c'était pas toujours la même en fonction de la population actuelle que l'on prenait. Et ça, c'est un peu problématique. Pourquoi ? Parce que tous les humains actuels sont, j'allais dire, proches les uns des autres, et ils ont un ancêtre commun qui est beaucoup plus proche dans le temps que l'ancêtre commun des néandertals et des sapiens. Et donc, il n'y a aucune raison pour laquelle les néandertals seraient plus près d'un groupe humain actuel plutôt qu'un autre, si effectivement il y a cette séparation ancienne d'une espèce par rapport à l'autre. Et la seule explication qui a pu être trouvée à ce phénomène, c'est que il y a eu une hybridation entre les ancêtres de certaines populations actuelles et les Néandertaliens, et pas d'hybridation ou peu d'hybridation avec d'autres. Donc, pour dire les choses simplement, la distance entre le génome de Néandertal et le génome des Africains actuels était un petit peu plus grand, alors on parle de pourcent, hein, était un petit peu plus grand que la distance entre Néandertal et puis des populations actuelles eurasiatiques, européennes, asiatiques, donc on allait prendre des Chinois, des choses comme ça. Et donc ça, alors même si cette différence elle était microscopique, comme on parle de 3 milliards et demi de paires de bases et que on a quand même beaucoup d'individus actuels sur lesquels on peut aller vérifier le génome, eh bien on pouvait montrer à l'époque que cette différence elle était statistiquement significative. C'était pas un artefact, c'était pas un accident d'échantillonnage, c'était quelque chose qui était significatif. Et donc la seule explication qui a pu être trouvée à ce moment-là, c'est que, en fait, longtemps après la séparation d'une branche donnant Néandertal et d'une branche donnant les populations actuelles, longtemps après, il y avait eu un petit peu d'ADN Néandertal passant depuis la branche Néandertal vers la branche des populations non-africaines actuelles. Enfin, l'ancêtre des populations non-africaines actuelles. Et tout ça, évidemment, c'était assez cohérent avec l'idée que Néandertal avait évolué en Eurasie, en tout cas dans l'ouest de l'Eurasie, les ancêtres des sapiens avaient évolué en Afrique, et donc cette introgression d'ADN néandertalien dans le génome des sapiens, eh ben, elle était intervenue hors d'Afrique, lorsque certaines populations d'origine africaine étaient sorties d'Afrique. Et donc à l'époque, on disait voilà, entre 1 et 4% d'ADN néandertalien a fait son chemin dans le génome des non-africains actuels. Alors, je vous précise tout de suite que bon, aujourd'hui, on a un peu affiné cette image et qu'on sait que même en Afrique, on trouve un petit peu d'ADN néandertalien dans certaines régions. Et la raison pour laquelle on trouve un peu d'ADN néandertalien dans certaines régions d'Afrique, bah, c'est que ces régions d'Afrique, elles ont reçu secondairement des populations d'origine eurasiatique. C'est vrai en Afrique de l'Est, par exemple, autour de la mer Rouge, par là, on a ça. C'est vrai aussi en Afrique du Nord. Donc, ce que vous voyez, c'est camembert avec une part sombre. Alors, ce n'est pas la part d'ADN néandertalien. Hein. C'est la part d'ADN néandertalien comparée à ce qu'on trouve en Eurasie. Alors, vous voyez quand même, du côté de la Tunisie, il y a des gens qui ont exactement la même proportion d'ADN néandertalien que ce qu'on pourrait trouver en Europe, par exemple. Puis après, surtout quand on va vers l'ouest, là-bas, c'est beaucoup moins. Mais donc, il y a un petit peu. Et ça, ça s'explique de façon assez simple. C'est que, dans le fond, le Maghreb, alors, probablement essentiellement après le dernier maximum glaciaire, a été repeuplé par des. Enfin, ou en partie peuplé par des populations originaires du Proche-Orient qui, elles, étaient. Avait déjà subi, si je peux dire, l'introgression d'ADN néandertalien. Alors, à la suite de ces travaux donc fondateurs de 2010, il y a eu une multitude d'études sur cette question d'hybridation, de flux génique, d'introgression entre Néandertal et Sapiens, mais pas que. Là, je vous montre une figure qui est tirée d'un article qui date déjà d'il y a quelques années, où vous avez à gauche cette grosse sphère orange, ce gros disque orange sont des sapiens, des Néandertals en vert, des Denisoviens que vous connaissez bien maintenant, et vous voyez qu'il y a des flèches rouges à peu près dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a non seulement de l'ADN néandertalien qui a fait son chemin dans le génome des sapiens, mais aussi de l'ADN de Denisovien qui est venu se mélanger avec tout ça en Asie, des échanges entre Néandertal et Denisovien directement, et puis ce que j'ai évoqué dans un cours précédent, c'est-à-dire des apports, si je peux dire, de groupes encore plus anciens que les paléogénéticiens ont baptisé super-archaïques. Hein. Et donc tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que quand des populations dominines, encore une fois, je reviens à cette notion d'espèces en formation, mais pas isolées sur le plan reproductif, ben, quand elles se rencontrent ou quand elles se remplacent les unes des autres, presque systématiquement, ces remplacements sont des remplacements avec des fuites. Et donc, c'est un phénomène absolument banal qui s'est produit probablement quantité de fois avant la période de temps qui nous intéresse. Et évidemment, avec l'ADN ancien, on ne peut pas remonter très très loin dans le temps, mais certainement le cas pour tous les hominines du Plio-Pléistocène. Alors, cette histoire d'hybridation entre sapiens et néandertal, Denisovien et sapiens, néandertal et Denisovien, bon, ça enthousiasmait la communauté scientifique, tout le monde s'est intéressé beaucoup à cette question-là, ça a frappé l'esprit du public. Mon collègue et ami Svante Paabo a fini par obtenir un prix Nobel pour ça, donc c'est vraiment quelque chose qui a été une avancée absolument décisive. Alors, de mon point de vue, pas tellement à cause de l'histoire de l'hybridation, mais parce que, en fait, la paléogénétique nous a fourni un outil complètement exceptionnel pour discuter des processus de peuplement du passé et de remplacement de groupes les uns par les autres. Alors, ça a suscité tellement d'enthousiasme que, du coup, je vous ai déjà dit que les paléanthropologues aimaient bien, certains trouvaient des hybrides, donc on a continué à trouver des hybrides. Donc tous ne sont pas vraiment des hybrides. Je vous cite cet exemple qui est une petite mandibule qui vient d'un site italien, de la région de Vérone, Roméo et Juliette. Et si vous allez à Vérone, vous n'êtes pas loin de cette petite grotte là, Riparo Mezzena. Et donc en 2012, on a publié cette petite mandibule comme une mandibule d'hybride. Pourquoi ? Parce que morphologiquement, vous voyez qu'elle a, vous voyez ou vous ne voyez pas, mais croyez-moi sur parole, c'est une mandibule d'enfant avec un petit menton osseux, une caractéristique d'Homo sapiens. Et un paléogénéticien a extrait de cette mandibule de l'ADN, je crois que c'était de l'ADN mitochondrial, de Néandertal. Alors, comme elle était supposée être assez ancienne, datant justement de cette période de remplacement, ça a fait un article, je crois que c'est dans PLOS, ça a été un hybride. Quelques années plus tard, un groupe de chercheurs dont je faisais partie a repris ce fossile, a rééchantillonné, alors pas que la mandibule, mais toute une série d'ossements qui venaient du même site. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à dupliquer les résultats de cette première publication. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé dans ces fossiles autre chose que de l'ADN d'homme moderne. Et surtout, on a obtenu des dates radiocarbone qui étaient des dates de quelques milliers d'années seulement. Mais si vous allez sur Wikipédia, que vous mettez hybride de Néandertal, machin, vous allez trouver la mandibule de Mezzena. D'ailleurs, vous trouverez probablement aussi l'enfant de Lagarvello. Donc, méfiez-vous des hybrides. Alors, quelques mots sur les effets de cette hybridation. Alors, je vous en ai parlé déjà mille fois, mais On arrive aujourd'hui à un chiffre autour de 2% de contribution néandertalienne dans le génome des non-africains actuels, un petit peu plus en Asie qu'en Europe d'ailleurs. Et si on prend les 2% de chacun d'entre nous, eh bien, théoriquement, on devrait arriver plus ou moins à reconstituer le génome de Néandertal. Ce n'est pas le cas. On en reconstitue à peu près 40%. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu, on va revenir là-dessus, mais il y a eu une purge du génome des sapiens par la sélection naturelle d'une grande partie du génome néandertalien. Il y a à peu près 60% de ce génome qui a été éliminé, et on sait maintenant qu'il a été éliminé assez rapidement, tout de suite au début. Pourquoi ? Parce que la présence dans certaines parties du génome d'ADN néandertalien était absolument délétère pour les porteurs. Donc en gros, ceux qui avaient tiré le mauvais numéro dans la loterie génétique, bah, soit ne sont pas nés, soit sont nés mais n'ont pas eu de descendance ou très peu. Et puis, évidemment, dans l'enthousiasme général autour de cette histoire d'hybridation, on est allé chercher tous les bénéfices qu'on avait tirés de l'hybridation avec Néandertal. Et de fait, il y a un certain nombre de sites. Alors là, vous avez, sur ce schéma, vous avez en rouge des représentations schématiques de chromosomes humains avec des contributions d'ADN néandertalien. Alors évidemment, personne n'a tout ça. Hein. Ça, c'est tous les endroits du génome où on peut avoir de l'ADN néandertalien. Et puis autour, vous avez la même représentation schématique des 22 chromosomes plus chromosome X pour les Denisoviens. Et dans ces contributions néandertaliennes, encore une fois, personne n'a tout ça. Si on vous montrait un individu isolé, vous verriez, je vais vous en montrer tout à l'heure, c'est beaucoup moins. On a un certain nombre de variants génétiques, alors soit des gènes codant des protéines, soit des parties du génome qui régulent les gènes, dont on pense, enfin on ne pense pas, on peut montrer que ces parties du génome ont été sélectionnées positivement. Donc procurer un avantage. Alors massivement, ce sont des parties du génome qui sont impliquées dans l'immunité, et ça se comprend assez facilement, des populations venant d'Afrique ou du Proche-Orient arrivant dans des environnements complètement nouveaux, si elles s'hybrident un tout petit peu avec des populations locales, la sélection naturelle va fixer tout de suite ce qui est avantageux, c'est-à-dire en gros ce qui procure une protection contre des pathogènes locaux. Et donc, voilà, le système HLA, enfin, tout ce qui est lié à l'immunité, ça a été sélectionné. Puis après, il y a des choses qui sont liées à l'environnement. Alors, on cite toujours pour les Denisoviens ce fameux variant du gène EPAS1 qui permet de mieux profiter de l'oxygène en haute altitude. Et puis, on a des choses qui sont liées à la peau, à la couleur de la peau, à la réaction aux ultraviolets. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose de local. Et puis, des choses qui apparaissent pas là, mais qui sont liées au métabolisme des lipides, au métabolisme énergétique, des choses comme ça. Mais je dois dire que c'est assez difficile, parfois, de vraiment, de façon précise, d'apprécier l'influence de cette contribution néandertalienne dans le phénotype, c'est-à-dire dans les caractères morphologiques ou métaboliques des populations actuelles. Dans un de mes cours précédents, de façon un peu trop rapide, je crois que je vous ai parlé de la rousseur comme un caractère qui avait peut-être été hérité des... Enfin, je vous ai parlé des taches de rousseur, je crois, qui avaient été peut-être héritées des Néandertaliens. Alors, ça m'a donné envie de revenir un peu sur cette question-là pour vous montrer à quel point c'est compliqué. En fait, on n'a aucune preuve, j'allais dire convaincante, que les variants responsables de la rousseur des cheveux, hein, chez les Européens actuels, soient d'origine néandertalienne. En fait, il y a une mutation qui a été identifiée sur un seul néandertalien d'un site espagnol qui s'appelle El Cidrón, qui est une mutation de ce récepteur de la mélanocortine de type 1, qu'on interprète comme influent sur la couleur claire des cheveux et peut-être aussi la peau. Mais en gros, pour dire les choses simplement, c'est pas. D'abord, on n'est pas très très sûr de l'effet phénotypique de cette mutation, justement parce qu'aujourd'hui, personne ne porte cette mutation en réalité. Et donc, il y a tout à parier que d'abord, ce caractère était probablement un peu exceptionnel chez cet individu, donc les autres néandertaliens étaient différents. Et surtout, il est fort probable, presque certain, que même les taches de rousseur qu'on peut observer chez des humains actuels en Europe, eh bien, soient en partie l'effet d'une adaptation convergente, peut-être aussi, alors dans le cas des taches de rousseur, en partie héritées de variants introgressés depuis les Néandertaliens. Mais vous voyez, c'est assez compliqué. Alors, on a quand même quelques études qui ont essayé de montrer comment l'introgression d'ADN néandertalien dans le génome des sapiens récents avait pu affecter leur phénotype. Alors, je vous cite une étude qui a été menée par tout un groupe mené par mon collègue Philippe Gunz. Donc, cette équipe, elle a pris des milliers de crânes d'humains actuels et elle a étudié les variations de forme et, en gros, on a essayé de mesurer la ressemblance ou la différence avec une forme néandertalienne qu'une forme plus basse, plus allongée. En gros, on a essayé de mesurer comment la présence d'ADN néandertalien dans le génome de ces gens-là pouvait affecter leur degré de globularité de l'encéphale. Et de fait, alors, il faut des milliers d'individus, il faut avoir leur génome, leur crâne, évidemment, donc c'est pas très facile, mais quand on fait tout ça, on se rend compte qu'effectivement, il y a deux allèles néandertaliens situés sur les chromosomes 1 et 18 qui ont une influence sur la globularité endocrânienne, qui la réduisent en fait. Et ces allèles ne sont pas des gènes, mais ce sont des parties du génome qui influencent l'expression de gènes qui se trouvent à côté. Et ces gènes qui se trouvent à côté, il y en a un qui s'appelle UBRA4 et l'autre PHLPP1. Et ces deux gènes sont impliqués respectivement dans la neurogénèse et la myélination. Alors, puisqu'on est dans le cerveau, je voudrais insister aussi sur le fait que quand on regarde la façon dont le génome néandertalien, quand il est présent dans le génome humain, s'exprime, eh bien, on peut montrer que, et ça c'est une étude qui a été publiée en 2017, on peut montrer que, en fait, il y a une forte déplétion de l'ADN néandertalien dans des régions qui sont des régions régulatrices actives dans le cerveau et aussi dans les gènes exprimés dans les testicules. Vous ne pouvez pas lire ce qu'il y a en bas là, mais ce qui est écrit en bas, ce sont des noms de gènes qui sont actifs dans ces deux tissus. Et vous voyez qu'ils sont complètement à gauche de la distribution. Donc, en fait, ces résultats sont plutôt cohérents avec la notion qu'il y a une incompatibilité partielle qui affecte à la fois la reproduction et des contraintes particulières liées aux fonctions cérébrales. Et donc, ce sont deux organes dans lesquels, probablement, il n'était pas bon d'avoir de l'ADN néandertalien. Alors, je vous ai parlé de mutations qui étaient des mutations favorables, qui avaient été retenues par les sélections naturelles. Je ne peux pas vous quitter sans vous dire que le monde n'est pas rose et que donc dans les mutations, enfin en tout cas dans les variants d'origine néandertalien qu'on retrouve dans les 2% dont nous avons hérité, il y en a un certain nombre qui ont peut-être été favorables autrefois et sélectionnés positivement, mais qui aujourd'hui posent un certain nombre de problèmes. Et voilà, je vous ai fait une petite liste des quelques problèmes que vous pouvez avoir hérité de lointaine hybridation avec les néandertaliens chez vos ancêtres. Alors, dans le système immunitaire, je vous ai dit, c'est là qu'on a la contribution néandertalienne la plus évidente. Alors, c'est très bien d'avoir des gènes de l'immunité innée qui ont protégé nos ancêtres d'un certain nombre de pathogènes, mais aujourd'hui, certains de ces variants sont associés, vous voyez, à un risque d'allergie, à des dermatites, à des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est pas terrible, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du métabolisme des lipides, c'est pareil. Alors évidemment, le métabolisme des lipides, ça peut être très bien d'avoir d'hériter de certains variants génétiques qui vont favoriser l'incorporation de ces lipides, leur métabolisation. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne vit pas comme pendant le dernier interglaciaire, et donc on sait que le diabète de type 2 et un certain nombre de troubles métaboliques sont associés à la présence de certains variants néandertaliens dans le génome des humains actuels. Alors, ce n'est pas des effets massifs, mais ce sont des effets qu'on peut démontrer quand on a une cohorte suffisamment grande d'individus. Alors, il y en a un que j'aime bien, c'est la dyslipidémie. Hein. Alors, la dyslipidémie, c'est un mot un peu compliqué pour dire « vous avez trop de mauvais cholestérol » et vous avez des triglycérides trop élevés. Je connais le problème. Et c'est quelque chose qui est en partie lié à la... qui est favorisé par la présence de certains variants néandertaliens. Et puis, alors, il y a même des choses qui sont liées au comportement. Vous voyez, il y a de la dépression, de la dépendance à la nicotine, des troubles du sommeil, tout ça à cause de Néandertal. Et enfin, j'avais déjà évoqué ça, il y a, avec l'épidémie de Covid-19, on s'est rendu compte que certains variants néandertaliens... Alors vous voyez, je suis quand même sympa, parce que je vous en ai mis un sur le chromosome 12 qui a un effet protecteur contre la Covid-19. Mais il y en a un sur le chromosome 3 qui vous emmène directement en salle de réanimation. Donc... ce tableau, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous ramène à une notion que j'ai souvent évoquée, qui est la notion que il n'y a pas de bon ADN ou de mauvais ADN. Il y a des choses qui peuvent être sélectionnées positivement dans notre génome, dans un certain environnement, avec un certain comportement et un certain mode de vie, qui, dans un autre environnement, sont délétères. Alors, pour en finir avec les effets de cette... cette hybridation. Je voudrais revenir à cet exemple des primates, vous savez, les babouins qui s'hybrident, parce que en fait, c'est ce qui nous donne probablement la meilleure image de ce qu'ont pu être les relations sapiens-néandertal. Voilà une étude qui a été menée par une équipe du professeur Tung, qui est maintenant une de mes collègue à Leipzig, qui dirige le département de primatologie. Et donc, cette équipe a travaillé beaucoup en Tanzanie, dans une zone où on a une zone d'hybridation entre deux espèces de babouins, Donc Papio anubis et Papio cynocéphalus, donc c'est le Papio cynocéphale et le babouin olive. Et vous voyez que donc il y a une distribution géographique différente, mais il y a une zone de contact. Et ce que vous avez, ces grands quadrilatères, vous montrent des génomes de ces deux espèces. Alors, quand on est loin de la zone d'hybridation, on a d'un côté des génomes qui sont tout verts, hein, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas de contribution de l'autre espèce, à l'autre extrémité, des presque tout jaunes, et puis au milieu, on a des individus qui ont un peu d'ADN de l'autre, enfin tout le monde a un peu d'ADN de l'autre espèce. Ce qui est intéressant, c'est que même quand on est loin de la zone hybride, on en a toujours un tout petit peu quand même. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le cas de ces deux espèces, c'est que bien qu'elles soient en contact depuis des centaines de milliers d'années, eh bien elles, si je peux dire, elles n'arrivent pas à fusionner. Pourquoi ? Parce qu'elles sont allées déjà trop loin dans ce processus de séparation. Et donc, même si on a des hybrides qui sont des hybrides féconds, eh bien, on voit qu'il existe déjà des mécanismes de sélection qui contribuent à maintenir des frontières spécifiques chez les primates. Et c'est probablement ce qui nous donne la meilleure image de nos relations sapiens-néandertales. Alors, pour finir sur ce thème, je voudrais revenir vers la reproduction. Je vous ai déjà dit que les testicules sont des organes où on a une expression faible d'ADN néandertalien. Et on a quelque chose qui pointe un peu dans le même sens, c'est le fait que sur le chromosome X, je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure, mais vous savez, quand il y avait ce grand cercle avec les schémas de chromosomes, avec les contributions néandertaliennes, peut-être certains d'entre vous, très observateurs, se sont rendus compte que sur le premier chromosome là-haut, qui était un chromosome X, en fait, sur ce chromosome-là, il y avait très très peu de contributions dénisoviennes et néandertaliennes par rapport aux autres chromosomes. Et donc, on a sur le chromosome X une expression du génome néandertalien qui est réduite. Et ça, c'est lié à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, cette hétérogamie chez les mammifères, le fait que les mâles, ils ont un chromosome X et un chromosome Y. Alors déjà, pour commencer, quand vous n'avez qu'un seul chromosome X, si vous avez un truc pas bon, vous n'êtes pas bon. C'est-à-dire que les femelles, dans les espèces, chez les mammifères, comme elles ont deux chromosomes X, elles ont une seconde chance, si je peux dire, et donc elles vont être hétérozygotes pour certaines mutations qui peuvent être délétères. Et donc c'est pour ça que de ce côté-là, les mâles sont un peu plus fragiles. Et puis il y a d'autres mécanismes qui font que il y a un certain nombre de caractères sexuels qui sont codés sur les chromosomes sexuels, évidemment. Et donc, tout ça, ça nous peint une image d'hybride auquel, probablement, cette loi d'Haldane que j'évoquais tout à l'heure s'applique déjà. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, les mâles sont déjà, sinon stériles, mais ils ont une fécondité réduite. Alors, maintenant, je voudrais dans le peu de temps qui me reste, je voudrais évoquer des exemples de passage d'ADN d'un groupe à l'autre, et à commencer par Sapiens néandertal. On parle tout le temps du passage de Néandertal vers Sapiens. Et on dit, mais chez les Néandertals, on ne trouve pas d'ADN de Sapiens. Alors, ce n'est pas vrai, en fait. On en trouve pas chez les derniers néandertaliens, au moment du grand remplacement, si je peux dire. Mais avant cela, il y a eu des introgressions d'ADN d'origine africaine. Alors, on s'en est rendu compte, notamment, quand on a découvert les Denisoviens. Quand on a découvert les Denisoviens, voilà, le premier arbre phylogénétique qu'on a pu tracer en 2010, en utilisant l'ADN mitochondrial. Et vous voyez que et c'est comme ça que les Denisoviens ont été vendus, si je peux dire, au début. On a dit les Denisoviens, c'est un groupe très ancien, très primitif, qui a divergé avant la divergence Néandertal-Sapiens. D'accord ? Et puis, pratiquement quelques mois après, quand on a eu l'ADN nucléaire, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai du tout. C'est-à-dire que les Néandertaliens et les Denisoviens sont deux groupes frères, plus proches l'un de l'autre qu'ils ne le sont des Sapiens. Et donc, là, l'explication de ça, c'est quoi ? C'est que, voilà, un arbre phylogénétique très simplifié qui vous montre cette divergence entre Sapiens à droite et puis le couple Denisovien Néandertal. Et vous voyez qu'en superposition, on a mis un arbre qui est l'arbre spécifiquement de l'ADN mitochondrial. Et c'est un arbre différent de l'arbre produit par l'ADN nucléaire. Pourquoi ? Eh bien parce que, alors là, c'est une date, évidemment, c'est extrêmement vague, quelque part entre 470 000 et 220 000 avant le présent, il y a de l'ADN mitochondrial d'origine africaine qui a fait son chemin dans le génome des Néandertaliens. Et donc, en d'autres termes, les Denisoviens et les Néandertaliens les plus anciens ont le même ADN mitochondrial, et c'est ce qui a été confirmé quand on a séquencé l'ADN des fossiles de Cima de los Huesos, qui ont 400 000 ans, donc ils sont près de la divergence. Donc là, ils avaient un ADN mitochondrial qui ressemblait à celui des Denisoviens, mais quelque part, autour de 300 000, eh bien, il y a eu un remplacement de cet ADN mitochondrial chez les Néandertaliens par de l'ADN d'origine africaine. Alors c'est j'ai déjà raconté ça plusieurs fois, c'est un phénomène qui est très connu, c'est-à-dire cette espèce de divorce entre un arbre phylogénétique d'ADN mitochondrial et puis d'ADN nucléaire. Ici c'est l'exemple des ours bruns et des ours polaires. Pourquoi ? Parce que quand il y a une hybridation entre deux espèces, encore une fois, on peut tirer qu'un seul ADN mitochondrial. Et donc, on peut, par différents mécanismes qui sont en partie liés au hasard, on peut avoir une espèce qui hérite entièrement d'un ADN mitochondrial qui n'était pas le sien à l'origine. Alors, ce qu'on a observé avec l'ADN mitochondrial, enfin, cette espèce de divorce entre l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire, on a observé exactement la même chose beaucoup plus tard, donc là c'est une étude de 2020, pour le chromosome Y. Donc le chromosome Y, vous voyez à droite, là vous avez un schéma qui ressemble un peu à celui que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire on a en gris un arbre phylogénétique qui est l'arbre phylogénétique de l'ADN nucléaire, c'est le bon si je peux dire, puisque quand même l'ADN mitochondrial et le chromosome Y c'est un tout petit bout de notre génome. Et vous voyez qu'il y a une route bleue là qui fait arriver un ADN du chromosome Y depuis l'Afrique chez des Néandertaliens. Et donc, même histoire, les Néandertaliens anciens, ils ont le même chromosome Y que les Denisoviens, mais c'est plus vrai pour les Néandertaliens récents. Alors, vous me direz comment c'est possible que l'ADN nucléaire nous donne un arbre et que l'arbre de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y soit différent, ben, je vous ai dit, c'est parce que il n'y a pas de recombinaison pour ces éléments-là du génome. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu d'hybridation pour que ça passe, si je peux dire. Et de fait, de façon assez, j'allais dire, logique, en grattant, si je peux dire, un peu plus dans le génome nucléaire des Néandertaliens, on s'est rendu compte chez certains Néandertaliens, enfin ça a été évalué sur ce Néandertalien de l'Altaï dont je parlais tout à l'heure, c'est cette phalange de gros orteils qui vient de la grotte de Denisova, eh bien on s'est rendu compte que ces Néandertaliens de l'Altaï, ils avaient conservé à peu près 6% d'ADN nucléaire d'origine africaine. Et donc là, il y a une date qui a été, encore une fois, donnée un petit peu à la louche, autour de 250 000. Donc tout ça, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'effectivement, il y a un passage d'ADN d'origine africaine, nucléaire, mitochondriale et même du chromosome Y, depuis l'Afrique vers les Néandertaliens d'Eurasie, de façon très ancienne. Alors, qu'est-ce qu'il en est des Denisoviens ? Alors, les Denisoviens, on l'a déjà vu, on a à Denisova un hybride de première génération de Néandertaliens et de Denisoviens. Et donc, Denisova 11, qui est cette pauvre petite chose, c'est le produit d'un papa Denisovien et d'une maman néandertalienne. Et ça, on a une idée assez précise. Et alors là, c'est la première génération. Donc, si je peux dire, ça vient d'arriver. Et c'est quelque chose qui est daté, voilà, autour de... Alors, ce n'est pas une date très précise, mais disons autour de 100 000, par là. Et donc, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que on a ce domaine des Denisoviens en Asie, ce domaine des Néandertaliens plutôt dans l'ouest de l'Eurasie, mais durant un épisode interglaciaire. Donc là, toute cette zone de territoire qui est au nord de la mer Caspienne, c'est une zone dans laquelle des groupes néandertaliens peuvent circuler et aller très très loin vers l'est, jusqu'à l'Altaï. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à Denisova. D'ailleurs, c'est le moment où ils sont présents dans la grotte et c'est le moment où on a cette hybridation. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'hybridation des Denisoviens avec les sapiens? Alors là, il faut dire que pour les Denisoviens, on a beaucoup moins d'informations que pour les Néandertaliens. Pourquoi? Parce que on a beaucoup moins de fossiles étiquetés Denisoviens dont on est extrait de l'ADN. Donc l'essentiel des informations, en fait, vient de l'introgression d'ADN Denisovien dans le génome des Asiatiques actuels. Et ces points de couleur vous montrent où est-ce qu'on trouve le plus d'ADN Denisovien dans des populations actuelles. Et vous voyez que c'est essentiellement en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça peut atteindre plusieurs pourcents pour... Il y a des individus qui ont 4-5% d'ADN Denisovien, soit en passant en plus des 2% d'ADN néandertalien. Mais sur le continent asiatique, là, c'est beaucoup plus bas comme proportion, et c'est lié probablement au fait que, pour le continent asiatique, ces premières populations arrivées ont été plus tard noyées un petit peu dans un flot venant de l'Ouest. Et donc, c'est là qu'on a c'est en tout cas, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie qu'on a gardé les traces les plus évidentes de cette hybridation. C'est d'ailleurs l'argument essentiel pour soutenir que les Denisoviens étaient présents dans le sud de l'Asie. Parce qu'on n'imagine pas que les gens qui ont peuplé l'Australie soient passés par la Sibérie et l'Altaï pour aller en Australie. Donc, ils ont forcément rencontré des Denisoviens quelque part ailleurs. Alors, je voudrais quand même vous mentionner que cette hybridation entre les sapiens et les Denisoviens, en tout cas, pour ce qui est de la zone où il y a le plus d'ADN Denisovien, on a quelques... Comment dire ? On a des résultats qui sont des résultats un peu surprenants à propos de l'âge. Alors, évidemment, encore une fois, l'arrivée principale, elle est à 50 000 ou avant. C'est là que ça se passe. Mais on a des données en Papouasie-Nouvelle-Guinée en particulier qui suggèrent des épisodes d'hybridation beaucoup plus tardifs. Alors, on n'a pas de preuves solides qu'il y a un métissage postérieur à 40 000 ans, mais il faut que vous sachiez quand même que dans certaines modélisations, on a proposé des âges beaucoup plus récents que ça, autour de 30 000 ans. Alors évidemment, c'est un peu surprenant parce que ça suggère qu'il y a encore des Denisoviens quelque part dans la zone de la Wallacea, vous savez, entre le Saoul et Sunda, très récemment. Enfin bon, c'est pas démontré de façon très, je dirais, solide pour l'instant, mais il faut garder ça dans un coin de sa tête. Alors pour finir, je voudrais vous dire, évidemment, on va finir en beauté hein, avec, avec l'Europe et ce remplacement. Vous vous souvenez qu'on a toute une série de fossiles qui ont été découverts assez récemment, en fait, pour la plupart. Je vous ai parlé des sites de Ranis, de Bachokiro, je vous ai parlé d'Oustichim, de Oase Kupestera, enfin, tous ces sites qui sont, disons, dans une tranche de temps entre 50 000 et 40 000, et qui sont des fossiles de sapiens. Ça, je vous ai expliqué ça la dernière fois. On a regardé leur ADN mitochondrial, et puis parfois leur morphologie avec un maxillaire de Bachokiro. Et ces fossiles, pour la plupart, ils sont associés à des industries qu'on attribue à ce qu'on appelle du paléolithique supérieur initial, donc quelque chose qui prend naissance au Proche-Orient. On a vu ensemble le site de Boker Tartit dans le Negev, et qui se répand dans le Levant, Syrie, Turquie, et puis dans les Balkans, et qui, à l'extrême ouest, va donner des industries comme le fameux Lincombien, Ranicien, Germanovicien, le LRJ. Alors, commençons par les fossiles les plus anciens qui ont été associés à ces industries en Europe. Et les fossiles qui sont les plus anciens viennent de deux sites. Un site qui est un site en Tchéquie, qui est le site de Zlatikoun, dans lequel, alors, le plus ancien, on n'a pas de date, je vous dis tout de suite, à Zlatikoun, on a un crâne qui est trouvé hors contexte archéologique. Pendant des années, on s'est demandé ce que c'était, on a essayé de le dater au radiocarbone, ça ne marchait pas, etc. Mais finalement, donc en 2021, il y a un génome qui a été publié. Et alors, le génome, c'est pas le radiocarbone, hein, mais avec le génome d'un individu, surtout si on a d'autres génomes, d'autres individus dans la même région, on peut faire une évaluation de son âge en prenant en compte les taux de mutation, le partage de certains variants, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais disons qu'on est arrivé avec ce génome à évaluer l'âge de ce fossile, probablement autour de 45 000 ans, au moins. D'accord ? Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les petites barres rouges que vous voyez là dans le génome de cette femme de Zlatikoun, c'est de l'ADN néandertalien. Elle en a un peu plus que vous. Elle en a à peu près 3%. D'accord ? Et on peut utiliser la taille de ces segments pour évaluer depuis combien de générations, combien de générations se sont écoulées depuis l'hybridation qui a donné naissance à cette présence d'ADN néandertalien dans son génome. Et là, ce qu'on observe avec cette femme de Zlatikoun, c'est qu'on est quelques milliers d'années au plus après l'introgression. Donc on est très très près de l'introgression. Alors après la femme de Zlatikoun, on a publié des génomes du site de Ranis. D'ailleurs, soit dit en passant, entre-temps, les préhistoriens nous ont dit, mais finalement, le LRJ et le Bohunicien, c'est-à-dire un paléolithique supérieur initial de Moravie, c'est peut-être un peu la même chose. D'accord ? Et donc, formidable, parce que les gens qui ont étudié le génome de Ranis se sont rendus compte que la femme de Zlatikoun, je vous rappelle, c'est une cousine d'une femme qui vivait, enfin une cousine au cinquième degré, mais une cousine quand même, qui vivait à Ranis. Alors à Ranis, on a des dates. Hein, on est entre 47 000 et 45 000. Et là, pareil, on voit ces petits bouts d'ADN néandertalien dans le génome de ces individus-là, qui nous donne une indication sur la date de l'introgression de l'ADN néandertalien dans leur génome. Et puis, pour finir, voilà un individu de Bachokiro. Alors, Bachokiro, c'est en Bulgarie, c'est un petit peu plus à l'est. Baccio Chirou, on est plutôt entre 43 000 et 45 000. Hein. Donc on est un peu après Ranis et Zlatikoun. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, ce qu'ont montré les travaux des paléogénéticiens, c'est que ce groupe Ranis-Zlatikoun, c'est un groupe différent du groupe de Baccio Chirou, qui est là un petit peu plus tard. Donc ils ont pas, c'est pas la même population. C'est un autre groupe de migrants qui arrive, petit groupe, quelques centaines d'individus. Et dans un cas comme dans l'autre, ce sont des groupes qui s'éteignent sans descendance en Europe. Alors, vous voyez, à droite, je vous ai mis cette arme très compliquée. J'ai entouré en rouge l'endroit où se trouve Baccio Chirou. Et vous voyez que Baccio Chirou ne va nulle part. C'est-à-dire, ça s'arrête, il n'y a pas de descendance qu'on puisse identifier dans des fossiles plus récents en Europe ou des Européens actuels. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, et je suis sûr que ça n'a pas échappé à votre sagacité, quand on compare ces chromosomes de cet individu de Baccio Chirou à ce que je vous ai montré à Ranis ou à Zlatikoun, il y a des segments. Alors là, les segments, ils sont plus rouges, ils sont bleus, mais imaginez qu'ils soient rouges. Hein. Donc, c'est de l'ADN néandertalien. Ce qui est extraordinaire quand on compare ces deux génomes, c'est qu'on voit que dans le cas de Baccio Chirou, on a des fragments d'ADN néandertalien beaucoup plus grands que dans les autres génomes. En particulier, là, c'est le cas sur le chromosome 2 et sur le chromosome 19, où on a carrément un grand segment d'ADN néandertalien qui est présent. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus de l'ADN hérité de l'introgression qui a donné vos 2% d'ADN néandertalien, ces individus de Baccio Chirou qui arrivent, qui sont plus tardifs que ceux de Ranis et de Zlatikoun, ils ont eu un second épisode d'hybridation localement. Alors bon, un jour on résoudra tout ça, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que d'abord ça montre quoi? Ça montre que tous ces groupes, ils ont des histoires différentes. Hein, c'est des petits groupes de migrants qui arrivent, ils arrivent avec leur ADN de néandertalien, enfin un tout petit peu, 2-3%, il y en a qui s'hybrident localement à nouveau avec des néandertaliens locaux, c'est le cas à Baccio Chirou, mais il y en a, ils ne veulent pas connaître les néandertaliens locaux, que ce soit Ranis, que ce soit Zlatikoun. Donc des histoires complètement différentes. Et soit dit en passant, alors dans le cas de ces individus de Baccio Chirou, on sait qu'on est seulement 5 générations après l'épisode d'hybridation. Et ces gens-là, on est vraiment au contact des néandertaliens. Alors ça pose des tas de questions, parce que ça veut dire que peut-être 2000 ans après que des sapiens venant du Proche-Orient soient allés en Thuringe, là-bas en Allemagne, sans se mélanger avec des néandertaliens locaux, il y en a qui arrivent plus tard et qui, en Bulgarie, trouve moyen de s'hybrider avec des néandertaliens. Ça veut dire qu'il y a des néandertaliens quelque part, évidemment. Donc ça dépeint un paysage qui est tout à fait surprenant. L'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que ces fameux déserts d'ADN néandertalien dont je vous ai parlé souvent, c'est-à-dire ces zones dans lesquelles la sélection naturelle a fait le ménage, ils sont déjà présents là, 5 générations après un épisode d'hybridation locale. Donc ça veut dire que la sélection qui purge le génome des sapiens de la contribution néandertalienne, enfin d'une partie de la contribution néandertalienne, c'est une sélection violente, c'est une sélection brutale qui joue dès les premières générations. C'est pas un truc qui se déroule sur des milliers d'années. Alors avec tous ces résultats, on peut essayer, maintenant qu'on a tous ces génomes qu'on n'avait pas autrefois, on peut essayer d'évaluer la date de l'introgression néandertalienne qui a donné vos 2% d'ADN néandertalien. Parce que, bon, c'est intéressant que les gens de Bacciochiro ils soient hybridés localement avec les néandertaliens, mais comme ils n'ont pas de descendants aujourd'hui, voilà, cette contribution-là, elle compte plus, si je peux dire. Donc celle qui compte, c'est celle qu'on trouve chez tout le monde, Ranis, Bacciochiro, Zlatikoun, tous les autres dont je ne vous ai pas parlé, et vous et moi. Et donc là, comment on fait? Eh bien, on peut évaluer le nombre de générations écoulées depuis l'hybridation en regardant la longueur de ces fragments d'ADN néandertalien introgressés dans le génome. C'est ce qui est en suivant l'axe vertical. Et puis, on peut comparer ça à des âges, à des dates. Et vous voyez que plus on va vers la droite, et plus on a un nombre de générations faible, hein, évalué à partir de la taille de ces fragments. Et puis quand la courbe, enfin la droite de régression touche l'axe horizontal, eh ben c'est zéro génération écoulée depuis l'introgression. Et vous voyez que cette droite, alors là, il y a tout un tas de fossiles qui ont été rentrés, on a mesuré la longueur de ces segments, on a évalué le nombre de générations. Vous voyez que cette courbe, elle rejoint l'axe horizontal quelque part vers 47 000. Alors, je suis sûr que ça ne vous impressionne pas tellement, mais moi, ça m'impressionne énormément parce que, en fait, pendant depuis qu'on a identifier cette introgression d'ADN néandertalien dans le génome des non-africains, les chiffres que tout le monde avait en tête, c'était des chiffres, on disait, oui, ça doit être vers 80 000, vers 60 000, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a quelques mois, il y a eu deux papiers qui ont été publiés. Donc, un papier Sumer et plusieurs auteurs, et puis un autre par Yassid, d'ailleurs tous les deux rattachés à l'Institut de Leipzig, hein, mais un dans Nature et un autre dans Science. Et ces deux papiers, avec des méthodes différentes, ont essayé d'évaluer l'âge de cette introgression. Et les deux papiers concluent à des âges surprenants pourquoi ? Parce qu'ils sont très récents. Donc, dans le cas du papier de Sumer et collaborateurs, l'introgression d'ADN néandertalien dans le génome des non-africains actuels est estimée entre 45 000 et 49 000. Ça veut dire que c'est juste avant Ranis, quoi. C'est Ranis, ils sont juste quelques siècles après cette introgression. Yassi trouve des résultats. Alors, c'est un peu moins précis, mais ils prennent une quantité d'individus plus importante. En particulier, ils prennent des individus plus récents et actuels. Et eux, ils ont un âge. Alors, l'intervalle est plus large, entre 43 500 et 50 000. Mais voyez, on tombe toujours dans des âges autour, en moyenne, autour de 48 000, 49 000. Et ça, c'est extrêmement surprenant parce que, dans le fond, tout le monde attendait un âge beaucoup plus ancien. Je vous rappelle ce que je vous ai dit plusieurs fois déjà sur le fait que tous les... si on prend toutes les populations actuelles vivant hors d'Afrique et qu'on regarde leur haplotype mitochondrial, c'est-à-dire cet ADN hérité de la mère, des lignées maternelles, toutes ces lignées maternelles, leur point de coalescence, il est vers 50 000, 55 000 au plus. Donc ça, c'est complètement cohérent avec ces résultats-là. Donc ça, tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les sapiens, ils sont sortis et ressortis et re-ressortis d'Afrique plein de fois, 250 000 ans au moins. Je vous ai montré qu'il y a de l'ADN d'origine africaine qui arrive chez les Néandertaliens. Mais qu'il y a une sortie qui est la bonne, si je peux dire. Et cette sortie qui est la bonne, eh bien, elle se passe assez récemment, probablement moins de 50 000 ans. Et c'est une population qui se retrouve au Proche-Orient. Il va se créer au Proche-Orient une population réservoir qui est là-haut. C'est cette population qui reçoit l'introgression d'ADN néandertalien là, tout de suite, à la porte de l'Afrique. Et c'est ce réservoir de population qui va être à l'origine des populations pionnières qui vont aller à Raniz, Latikoun, Abachokiro, à Oustichim, et toutes ces petites populations qui ont essaimé en Eurasie et qui ont disparu sans descendance. Et c'est à nouveau ce réservoir qui va donner les populations aurignaciennes qui, elles vont participer à l'élaboration du génome des Européens actuels, au moins en partie. Donc vous voyez à quel point ces travaux sur les génomes anciens et surtout sur cette question de quand et où s'est produite l'hybridation apportent un éclairage absolument précis et surprenant sur les processus de peuplement de l'ouest de l'Eurasie et de remplacement des Néandertaliens. C'est pas fini, on en reparlera la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.